Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Ils sont 3 millions à se demander ce matin quand un déluge de feu va s'abattre sur eux. 3 millions de civils, de rebelles et de djihadistes de diverses obédiences, regroupés par les hasards sanglants de la guerre de Syrie dans la région d'Idlib, au nord-ouest du pays. C'est la dernière poche, le dernier abcès, pour reprendre l'expression du ministre russe des Affaires étrangères, qui échappe encore au contrôle de Bachar al-Assad, la dernière avec la zone kurde au nord-est. Hier, deux réunions au plus haut niveau ont eu lieu pour tenter d'éviter le pire et aussi pour mesurer les vrais rapports de force. À New York, réunion du Conseil de sécurité sous présidence américaine, réunion symbolique tant le système traditionnel s'est avéré impuissant à enrayer cette guerre de 7 ans. Et puis à Téhéran, négociation entre les 3 acteurs clés, Vladimir Poutine, Hassan Rouhani, les deux parrains du régime de Damas, et Recep Erdogan, le président de la Turquie, en première ligne pour cause de frontières communes et d'intérêts contradictoires. Poutine, manifestement, a sèchement rejeté la proposition de trêve avancée par Erdogan. Comment éviter maintenant une catastrophe humanitaire de plus au risque de laisser des centaines de djihadistes filer dans la nature? Pourquoi les Occidentaux, Américains et Européens sont-ils à ce point marginalisés maintenant qu'Assad a gagné la partie? Comment la Russie et l'Iran vont-ils se partager les dépouilles? Qui va financer la reconstruction d'un pays dont la population, l'économie, la culture ont été véritablement saccagées? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Dorothée Schmidt. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le programme Turquie-Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Karim et Émile Bitard, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Vous enseignez les relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Par téléphone, et je l'en remercie, François Burga, vous êtes politologue, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à Aix-en-Provence. Vous avez dirigé l'Institut français du Proche-Orient jusqu'en 2013. Et puis j'ai pu enregistrer hier, malheureusement il est dans un avion en ce moment même, donc ce n'était pas possible de faire autrement, j'ai pu enregistrer un entretien avec Robert Mallet qui préside l'International Crisis Group, qui vient de publier un rapport très complet sur la situation à Idlib. Mallet a fait partie du Conseil de sécurité nationale du temps du président Obama. Karim Bitard, que sait-on des discussions qui ont eu lieu donc hier, presque simultanément, au Conseil de sécurité d'un côté et à Téhéran de l'autre?
Alors, au Conseil de sécurité, on a le sentiment à nouveau qu'il y a une sclérose absolue de la gouvernance globale. Et à Téhéran, on a cette photo assez glaçante du trio irano-turco-russe. Les Syriens sont absents, les Syriens sont spectateurs, le sort de leur pays se décide dans des capitales étrangères. Il y a une sorte de triomphalisme russo-iranien, la raison du plus fort est toujours la meilleure, ils ont le sentiment d'avoir gagné et ils veulent porter un coup fatal à Idlib, à ce qui reste de la rébellion syrienne. Seulement pour ce faire, ils ont quand même besoin de la Turquie pour transformer son succès militaire en succès politique, M. Poutine a quand même besoin de M. Erdogan. Ce ne sera donc pas facile d'opter pour des frappes totalement indiscriminées. Il a besoin de la Turquie pour toute une série d'initiatives politiques qu'il mène simultanément avec les offensives militaires. Et il aura également besoin des donateurs européens pour la reconstruction de la Syrie. On parle de sommes faramineuses, au bas mot 250 milliards de dollars. Certains parlent de 1 trillion, 1000 milliards de dollars. Les pays du Golfe ne vont pas payer si Assad reste au pouvoir. Les Iraniens ont déjà pas mal de problèmes économiques. Les Russes ont déjà beaucoup payé pour cette guerre en Syrie. 1 million de dollars par jour depuis 2015. C'est pas autant que les Américains en Irak et en Afghanistan, mais c'est quand même beaucoup. Les Chinois sont déjà sur les rangs. Les Occidentaux sont marginalisés. Mais l'Europe quand même pourrait avoir une certaine influence. Et donc Poutine, on peut l'espérer, va chercher quand même à ménager un tout petit peu les Turcs et les Européens.
Mais c'est pourtant ce qu'il n'a pas fait hier. Et c'était même sidérant parce que une partie de ces négociations était retransmise en direct. Et donc, on a vu à quel point Vladimir Poutine a dit niette aux propositions turques d'instaurer une sorte de trêve. Donc, ça veut dire en fait que cette guerre syrienne qui a commencé, il faut le rappeler, 2011, c'était le printemps arabe. Et cette guerre syrienne a aussitôt été, en quelque sorte, confisquée, prise en main par les grandes puissances qui ont refait un jeu que l'on retrouve dans cette partie du monde depuis le 19e siècle.
En effet, la révolution syrienne commence en mars 2011, dans la droite ligne des révolutions tunisiennes et égyptiennes. Elle est initialement pacifique, non violente, axée sur des revendications infiniment légitimes de liberté, de refus de l'institutionnalisation de la torture, de refus de l'autocratie. Mais dès le mois de novembre 2011, à peine 6 mois après, cette révolution a été réellement phagocytée par le jeu des puissances. Elle s'est transformée en guerre par procuration. Et il n'est pas inédit que les guerres par procuration se terminent par une sorte de querelle autour de sphères d'influence. Et là, on a le sentiment qu'il y avait une sorte de condominium russo-turco-iranien qui était en train de se dessiner. Mais à Idlib, on touche un peu un point sensible, car il y a des intérêts contradictoires. Les intérêts turcs et les intérêts russes sont aujourd'hui contradictoires. Monsieur Poutine semble pousser un peu loin le cynisme qu'il a caractérisé jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils pourront faire à Idlib ce qu'ils ont fait ailleurs. Il y a quand même énormément de civils, vous l'avez rappelé. C'est vrai que cela ne les a pas empêchés précédemment dans d'autres villes d'y aller avec la manière forte.
C'est
mais
moi qu'on puisse dire.
Erdogan souhaiterait quand même maintenir un tant soit peu d'espace. Il essaie de gagner du temps. Donc, il pourrait quand même, malgré le triomphalisme russo-iranien, mitiger un peu les ambitions Poutine.
Dorothée Schmitt, donc à Idlib, d'après ce que l'on sait, il y a effectivement à peu près 1 million de civils, dont beaucoup de déplacés, des gens qui, selon les mouvements de ressac de cette guerre affreuse, ont trouvé un vague refuge et vivent dans des tentes. Et puis, il y a à peu près 2 millions, c'est difficile à apprécier, de groupes armés d'obédience diverses, donc depuis les rebelles jusqu'aux djihadistes de différentes factions. Mais quelles sont les priorités pour le président turc à ce stade? Parce qu'il a quand même été véritablement mouché en direct hier à Téhéran.
Alors, je pense qu'on peut définir plusieurs niveaux de priorité pour la Turquie. Elle joue d'abord son jeu de puissance régionale et aussi internationale. C'est-à-dire qu'il y a le dialogue avec les États-Unis qui compte, autant que le dialogue avec les Russes et avec les Iraniens.
Et c'est très très mal en point.
Et évidemment, la Turquie, là, est dans cette espèce de jeu de bascule, puisque c'est le premier allié des États-Unis dans la région. C'est un membre de l'OTAN, c'est le membre de l'OTAN qui est censé peut-être être la tête de pont d'une stratégie éventuelle de l'organisation au Moyen-Orient.
Et puis mais, en même mais temps. Mais sous le prétexte de détenir donc ce pasteur.
Oui, on a une brouille turco-américaine qui est devenue très très sévère cet été. Oui. Mais on a eu cette semaine une visite du représentant américain pour la Syrie, James Jeffrey, à Ankara, précisément sur la question d'Idlib. Donc là, on a à nouveau des initiatives d'Ankara de se rapprocher de Washington autour de la crise d'Idlib. Donc on a ce niveau international pour la Turquie. On a la question de son influence régionale avec une présence en Syrie turque, qui est aujourd'hui le résultat de plusieurs interventions militaires. Et on a une présence militaire turque à Idlib même, puisque Idlib, c'était une de ces fameuses zones de désescalade qui avait été déterminée par les Russes, les Turcs et les Iraniens l'année dernière.
Mais alors pourquoi Erdogan n'a-t-il pas réussi à convaincre Poutine hier?
Erdogan ne peut pas convaincre Poutine parce que Poutine a décidé de nettoyer Idlib des djihadistes et qu'aujourd'hui on arrive dans une forme de contradiction qui est que la Turquie en réalité depuis le début du conflit syrien s'est affirmée comme le premier ennemi de Bachar el-Assad et qu'elle a soutenu divers groupes combattants y compris des groupes islamistes.
Avec une frontière absolument poreuse.
Alors une frontière qui est restée ouverte officiellement pendant très longtemps, c'était la politique turque de laisser la frontière ouverte, ce qui a permis à 3 millions de réfugiés syriens de s'installer en Turquie et aujourd'hui une frontière qui est pratiquement entièrement scellée au contraire parce que la Turquie considère qu'elle ne peut plus accueillir de réfugiés. C'est un des problèmes en cause aujourd'hui sur la question d'Idlib. Mais, en revanche, une expansion de la présence turque, une présence militaire turque en Syrie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Syrie, on a aussi à Idlib précisément, un risque d'affrontement direct en réalité, y compris entre des militaires turcs et les autres forces qui sont présentes sur place.
François Burga, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes à Aix, en Provence. Expliquez-nous exactement les forces qui sont présentes sur place. C'est évidemment une nébuleuse qu'il est difficile véritablement de préciser. Mais la Turquie a, à un moment donné, encouragé ou en tout cas soutenu l'un des groupes de rebelles, sinon de djihadistes anti-Assad.
Oui, merci Christine Ockrent. Je ne peux pas laisser passer, votre langue a peut-être fourché, mais vous avez évoqué 2 millions de combattants islamistes. Je crois qu'il faut enlever 2 zéros, bien sûr. Il y a 20, 30 000 combattants. Alors, il dit ceci, et puis peut-être, je veux réagir à l'expression, Poutine a toujours voulu vider les djihadistes d'Idlib. Poutine, depuis le début, a toujours voulu vider n'importe quel segment de l'opposition syrienne. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais elle est très éclairante. En 2005, Poutine rencontre Bachar el-Assad à Moscou, alors que Bachar el-Assad est la cible de toutes les pressions occidentales dans le cadre de l'affaire Hariri. Et à ce moment-là, Poutine lui déclare, devant des témoins que nous connaissons, « Tant que je serai, nous sommes en 2005, tant que je serai président de la Russie, tu seras président de la Syrie. » Alors, Poutine ne s'en prend pas aux djihadistes. Poutine manipule le prétexte djihadiste pour stopper tout processus d'ouverture politique en Syrie. Je pense que nous sommes tous d'accord, mais il est important de le redire. Il y a actuellement 2 catégories de combattants à Idlib. Allez, on va faire simple, on va dire les gentils et les méchants, même si la catégorie des méchants demanderait un peu plus de précision. La catégorie des gentils, des fréquentables, c'est une coalition de groupes qui sont plus ou moins, on ne peut pas entrer dans les détails, les héritiers de ce qui a été l'armée syrienne libre. Ceux-là ont eu le soutien officiel, explicite, d'une partie de la communauté occidentale, dont Erdogan. Et puis, il y a un groupe qui a changé de nom pour essayer de se laver des péchés de sa naissance. Il s'appelle maintenant l'Instance de Libération de la Syrie, mais avant il s'appelait le Front al-Nusra, mais avant il avait une filiation avec Al-Qaïda. Ceux-là sont considérés comme absolument infréquentables par la totalité de la communauté internationale. À quelques petites nuances près quand même, sans doute vous souvenez-vous que notre propre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'était laissé aller à une appréciation très contrastée puisqu'il avait dit « Oh, le Front al-Nusra, attention, ils font du bon boulot. » Pourquoi ? Parce que le Front al-Nusra doit être dissocié, c'est très important, de l'État islamique, en ce sens que, premièrement, il recrute des Syriens nationaux, il refuse les étrangers, et deuxièmement, il n'a pas un agenda djihadiste international. Mmh. Il ne fait pas de déclaration anti-occidentale. Cette nuance-là, elle nous a échappé. Mais disons, en gros maintenant, 2 camps de la révolution. Erdogan en soutient un et il essaye d'affaiblir l'autre. Et ce qu'il a vendu hier à ses partenaires, à ses interlocuteurs...
Enfin,
ce qu'il a essayé de vendre, ce qu'il a échoué à vendre, c'est l'idée de poursuivre son effort de vider l'assise démographique, les ressources humaines de l'ex-front al-Nusra, en convainquant tous les citoyens syriens qui sont dans ces rangs-là, ouais, de passer dans les rangs de la révolution dite modérée. Et voilà, en gros, si vous voulez, le paysage, il est ça, il y a des tout petits groupes, il n'y a pas l'État islamique dans cette région. Il faut le dire, c'est extrêmement important. Et puis il y a des manifestations populaires très soutenues de la population contre Nusra. Hein, donc il est difficile de dire, c'est le prétexte djihadiste qui justifie cette nouvelle ultime vague de violence. Mais c'est vrai que nous-mêmes, les Occidentaux, nous sommes très très démunis contre la rhétorique du régime, moi ou les djihadistes. Sorte depuis 2014, août 2014, nous l'avons adopté. C'est la nôtre.
Mais c'est précisément le paradoxe, François Burga, de cette guerre. On a vu qu'Assad, au tout début, en fait, si j'ai bien compris, il a ouvert les portes de ses prisons et beaucoup de militants à l'époque, qu'on n'appelait pas encore djihadistes, ont ainsi pu prendre les armes. Et son objectif, et il y est parvenu, c'est en fait de convaincre les Occidentaux, et surtout depuis l'obsession légitime du terrorisme qui nous accable, de convaincre les Occidentaux que le choix, c'est entre lui et les terroristes. Et là, en fait, les djihadistes deviennent finalement les derniers opposants armés à son régime.
Il y avait au début, vous savez, il y a eu une guerre des rhétoriques des camps. Conflit syrien, et il y avait une expression que j'aimais beaucoup, Assad ne défend pas les minorités, Assad ne nous protège pas des djihadistes, il instrumentalise les minorités et les djihadistes pour se défendre, et c'est ce qu'il a fait. Si vous voulez, en peu de mots, on peut expliquer pourquoi l'opposition syrienne légitime, populaire, modérée, non violente, ou dans une logique de stricte contre-violence, s'est faite marginaliser en employant des formules un petit peu à l'emporte-pièce. On va dire qu'au début, la crise syrienne n'a plus été une crise seulement syrienne, elle est devenue internationale, il y a eu deux camps. Le camp qui soutenait le régime, pour des tas de raisons, a fait très bien son boulot. Le camp qui soutenait l'opposition, il s'est scindé en deux, et il a eu deux raisons d'abandonner l'opposition syrienne au milieu du gué. Les Turcs ont trouvé que les opposants syriens potentiellement étaient trop kurdes, hein, et vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et les Occidentaux, à mesure que les dynamiques politiques s'explicitaient en Tunisie, en Égypte, à mesure que l'on voyait les forces politiques qui sortaient des urnes de ces révolutions, les Occidentaux ont trouvé que les opposants syriens étaient, en quelque sorte, ouvrez les guillemets, trop musulmans, pour être honnête.
Ou trop frères musulmans, pour être précis.
Ou trop frères musulmans, ou trop djihadistes, pour être totalement explicite, pour être honnête. Et nous n'avons plus été capables de faire cette distinction subtile mais essentielle entre les forces politiques qui étaient fréquentables, même si elles avaient un coefficient de religiosité qui était supérieur à celui qui est fréquent dans nos sociétés, et puis ceux contre lesquels il était légitime, devant lesquels il était légitime de tracer une ligne rouge. L'essentiel, il faut le rappeler, nous l'avons peut-être raté, pour affaiblir les groupes extrémistes, il faut faire en sorte de faire émerger une proposition, une offre politique, qui garde une dimension oppositionnelle, une offre politique autre que la soumission au régime, et différente de celle des groupes radicaux.
Et on en est évidemment très loin. J'ai demandé à Robert Mallet, qui préside donc ce centre de recherche Crisis Group, à son avis, qui a véritablement la main aujourd'hui sur la situation en Syrie et singulièrement, bien évidemment, sur le sort de ces 3 millions de gens bloqués dans la région d'Idlib. Rob Mallet.
L'acteur pivot, l'acteur principal, c'est la Russie. Pour des raisons assez simples, c'est d'abord que sans aviation russe, il n'y a pas d'offensive syrienne possible. Ils n'ont pas les moyens militaires pour attaquer Idlib sans les bombardements de l'aviation russe. Donc c'est vraiment Moscou qui tient les clés. Et puis c'est le président Poutine qui va devoir réfléchir aux conséquences par rapport à ses relations avec les États-Unis, avec l'Europe. Donc c'est vraiment l'acteur pivot. Depuis un certain temps, c'est le cas. En Syrie, c'est la Russie qui tient beaucoup des clés. Et dans la situation à Idlib, c'est le cas de façon encore plus claire. C'est vrai que la Russie a marqué énormément de points en Syrie. C'est l'endroit où elle a pu marquer son retour dans la région, où elle a pu montrer ses muscles militaires, où elle a pu contrecarrer les desseins des États-Unis. Mais à long terme, ce n'est pas nécessairement la Russie qui va dominer la Syrie. L'Iran a une présence sur le terrain, militaire sur le terrain, qui sera sans doute à plus long terme que celle de la Russie. Et le président Assad, évidemment, pour l'instant, sort vainqueur par le fait qu'il a pu reconquérir une grande partie de son territoire, du territoire syrien. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on contemple une offensive militaire, c'est la Russie qui joue un rôle majeur. C'est vrai qu'elle a marqué des points diplomatiques et politiques. Ça ne veut pas dire à long terme que c'est la Russie qui sera le grand vainqueur de cette confrontation.
Dorothée Schmidt, l'autre grand vainqueur de cette guerre sans fin, c'est évidemment l'Iran. Et on a vu à quel point le président Rouhani, jouant les hôtes hier à Téhéran, marquait véritablement ses ambitions. Quelle est aujourd'hui concrètement la présence de l'Iran en Syrie? Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que grâce à son action militaire et aussi à sa présence économique maintenant, l'Iran, pour la première fois depuis les Sassanides, je crois, donc depuis, c'était quand les Sassanides ? Troisième siècle, quatrième siècle, atteignent la Méditerranée. Donc il y a véritablement un arc chiite maintenant, grâce au rôle joué par l'Iran dans cette guerre syrienne.
Je pense que les intérêts de l'Iran doivent évidemment aujourd'hui être compris dans le cadre de leur affaiblissement diplomatique plus global qui résulte de l'affrontement avec l'administration Trump et avec et de la montée des tensions avec l'Arabie Saoudite. Depuis l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, on avait une réintégration de l'Iran dans la communauté diplomatique internationale. On avait une forme de normalisation du régime iranien qui allait passer par, notamment, la réintégration économique de l'Iran.
Certes, mais ils étaient déjà présents militairement.
Absolument.
À travers le Hezbollah.
Absolument,
libanais, tout à fait.
Et
dans la guerre syrienne.
Et aujourd'hui, c'est ce qui sert d'explication, de prétexte, ou en tout cas de paramètre dominant de la nouvelle diplomatie américaine vis-à-vis de l'Iran. Le containment régional de l'Iran. Donc aujourd'hui, il est évident qu'à partir du moment où les États-Unis réannoncent un train de sanctions qui va être appliqué encore plus durement que par le passé et où le but est à la fois d'isoler totalement l'Iran et en réalité de faire tomber le régime, donc on est revenu vraiment à cette philosophie de regime change dont on sait qu'elle a en réalité complètement échoué depuis 15 ans dans la région, les Iraniens ne veulent pas lâcher la Syrie parce que c'est le lieu où se joue cette confrontation des puissances. Et dans cette confrontation, il y a effectivement la présence militaire sur le terrain. Il y a l'idée de participer à la reconstruction avec une forme de normalisation de la présence du Hezbollah en Syrie notamment. Et puis il y a...
Et avec des achats de terres et l'installation de chiites, parce qu'il y a une dimension évidemment religieuse.
Oui, bien sûr, démographique, de changement des proportions démographiques. Mais enfin, les chiites sont quand même extrêmement minoritaires en Syrie. Donc avant d'arriver à un basculement de la perspective démographique, il faudra un petit peu de temps. Et puis... la mise en scène de la diplomatie iranienne, et c'est aussi ce qui s'est passé à Téhéran hier, avec cette table ronde publique de discussion entre les trois leaders qui sont censés effectivement définir le sort futur de la Syrie en l'absence totale, comme le soulignait Karim Emil Bitar, de représentants de la Syrie elle-même. Les Iraniens aujourd'hui sont très soucieux de démontrer qu'ils sont aussi capables de négocier et qu'ils veulent des solutions politiques, même si c'est en partie une fiction, puisqu'en réalité, ce qui fait la différence, c'est leur capacité militaire sur le terrain.
Et que sait-on des propositions faites éventuellement par Hassan Rouhani hier ?
Je ne sais pas exactement ce qui s'est négocié entre les Russes et les Iraniens, mais ce qui est clair, c'est que les Iraniens ont dit qu'ils voulaient eux aussi se débarrasser du terrorisme islamique, ce qui les rapproche des Russes finalement, ce qui fait qu'on a une forme de convergence d'intérêt entre ces deux acteurs, qui leur donne la main finalement dans le trio, puisque on sait que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Erdogan, lui au contraire, veut un cessez-le-feu, parce que ce qu'on lui demande, c'est finalement de choisir entre les bons et les mauvais, que décrivait François Burga tout à l'heure, de dire définitivement que ses ennemis, c'est le Hayat Tahrir al-Sham, qui sont donc ses héritiers d'Al-Qaïda, alors que, comme le décrivait aussi François Burga, les Turcs font une espèce d'ingénierie des groupes islamistes à Idlib, qui est quand même... totalement ingérable à long terme. Mais il faut aussi voir que les Russes ont donné un job qui était impossible à réaliser à Idlib, qui était de désactiver les islamistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive à cette extrémité de l'offensive des loyalistes sur Idlib. Parce que les Turcs n'ont pas réussi, finalement, à désactiver précisément les islamistes.
Et il ne faut jamais oublier que l'obsession absolue d'Erdogan, ce sont les Kurdes. Enfin, les Kurdes de Syrie, c'est-à-dire au nord-est du pays, empêcher les Kurdes syriens d'établir une zone le long du fleuve qui établit la frontière. Et ça, c'est encore plus important pour lui que ce qui se passe à Idlib.
Oui, je pense que en fait, les Turcs aujourd'hui, ils ont trois enjeux sur Idlib. Bon, il y a l'enjeu un peu global de participer à l'avenir de la solution politique en Syrie, assurer une zone d'influence, comme en parlait Karim Emil Bitar tout à l'heure. Et ils ont cet avantage d'avoir une présence militaire avec une occupation de différentes portions du territoire en Syrie. Et Erdogan a encore annoncé que les Turcs ne quitteraient pas la Syrie, qu'ils allaient poursuivre leur présence sur les différents morceaux de Syrie où ils sont actuellement installés. Il y a un deuxième aspect très important qui est d'éviter la contagion islamiste. Je vous rappelle que les attentats islamistes en Turquie ont cessé depuis à peu près un an et demi, que c'était essentiellement des attentats qu'on a attribués à Daesh, mais dont en réalité on ne sait pas très bien complètement qui les faisait.
Attentats à l'aéroport d'Istanbul, notamment,
oui.
Notamment.
Et la Turquie a été en réalité utilisée comme une sorte de zone de repli pour toutes sortes de leaders islamistes. Et puis le troisième enjeu très important, c'est de contenir les Kurdes, comme vous l'avez dit, mais ça se joue plutôt plus à l'est.
Karim Bitar, vous êtes Libanais, donc vous observez cette espèce d'imbroglio sanglant de très près. Vladimir Poutine met toujours en avant ses objectifs militaires. Pour la première fois, d'ailleurs, me semble-t-il, il y a quelques semaines, Moscou a publié des chiffres tout à fait significatifs sur l'importance de son engagement en Syrie. 63 000 hommes au sol, près de 40 000 interventions aériennes. On voit aussi que ça a été l'occasion, sûrement, d'entraîner les troupes russes et de tester probablement aussi des systèmes d'armement. Jusqu'à quel point est-ce que cette présence militaire russe va rester une dimension pérenne, si j'ose dire, dans cette partie du Moyen-Orient ?
Elle va probablement rester pérenne. Ces chiffres que vous rappeliez dévoilent une sorte d'interventionnisme décomplexé. Jusqu'à présent, il fallait aller compter le nombre de morts entre 20 et 30 ans ayant obtenu des décorations posthumes pour savoir quel était le nombre de morts russes en Syrie. Aujourd'hui, on a des chiffres. On sait que ce fut un engagement massif et décomplexé au nom d'une série d'intérêts stratégiques, économiques, civilisationnels aussi, parce qu'ils ont beaucoup utilisé la carte des chrétiens d'Orient pour justifier aussi cette intervention en Syrie. Mais ce qui me frappe, c'est que quand on écrira l'histoire de la guerre en Syrie dans 10 ou 15 ans, ce sera un peu le crime de l'Orient Express. Il y a une responsabilité véritablement collective. Dans un premier temps, Bachar el-Assad, vous l'avez rappelé, a accéléré la militarisation de la révolution syrienne, a brutalement réprimé. Ensuite, les Iraniens et les milices chiites transnationales, le Hezbollah, les milices irakiennes, ont permis de sauver le soldat Bachar jusqu'au jour où les Russes sont entrés en guerre. Et les Américains, il faut le dire aussi, ont eu tendance très vite à sous-traiter la crise en Syrie à leurs alliés sunnites du Golfe. Ils ont été échaudés par l'expérience irakienne, ils n'ont pas voulu y aller, mais ils ont multiplié les opérations secrètes et la sous-traitance. Et on a eu des guerres par coopération.
Et donc ça, c'était Barack Obama qui refuse donc, oui. Enfin la fameuse ligne rouge,
absolument. Qu'il
avait eu l'imprudence d'évoquer.
Et ce qui a prolongé cette guerre, ce sont aussi le fait que le Qatar et l'Arabie Saoudite se taillaient des croupières, que la Turquie n'était pas forcément en train de soutenir les mêmes groupes islamistes que les autres pays sunnites. Et aujourd'hui, on risque d'avoir la même chose entre les Russes et les Iraniens, car les Russes et les Iraniens ne sont pas forcément alignés sur les mêmes objectifs stratégiques. L'Amérique semble rester quelque peu pusillanime en face de Poutine, en espérant que Poutine gardera l'Iran relativement en dehors de la Syrie, évitera une implantation du Hezbollah au sud de la Syrie qui inquiète particulièrement Israël.
Et donc là, oui, là il y a eu Israël, enfin d'ailleurs Netanyahou est allé 3 ou 4 fois à Moscou ces derniers temps et il aurait obtenu de Vladimir Poutine un gel en quelque sorte de la présence iranienne, en tout cas pas sur la partie syrienne du Golan où là
c'est cela.
Les Iraniens ne sont pas militairement présents. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs une attaque israélienne hier ou avant-hier à nouveau.
Et c'est ce qui risque de marquer les années à venir, c'est que les Russes et les Iraniens souhaitent tous les deux obtenir un retour sur investissement. Ils ne sont pas intervenus uniquement pour les beaux yeux de Bachar el-Assad. Ils ont estimé qu'il y avait une menace existentielle. Certains Russes disaient en défendant Damas, en défendant Bachar, ce n'est pas Damas que l'on défend, c'est Moscou que l'on défend, c'est la hantise de l'expansion de l'islamisme vers le Caucase. On trouve la même chose, d'ailleurs, c'est intéressant chez les Chinois, du fait du grand nombre de militants ouïghours en Syrie. Les Chinois sont aussi très méfiants envers la rébellion syrienne. Il y a toujours cette idée, cette vieille idée orientaliste qui revient que dans cette partie du monde, on a besoin d'autoritarisme. On la retrouve chez les Russes, on la retrouve chez les Chinois, on la retrouve chez les droites radicales européennes. Donc il y a véritablement une responsabilité collective dans cette crise syrienne. Et aujourd'hui, M. de Mistura se trouve bien mal en point.
Qui est donc l'envoyé spécial pour la Syrie
de l'ONU,
depuis des années maintenant.
Qui ne parvient pas à mettre
Suédois
en place
de nationalité.
Des corridors humanitaires et on a le sentiment véritablement que c'est le fiasco le plus retentissant de l'ONU depuis fort longtemps.
Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous avez trouvé dans la presse internationale à la fois une description forcément apocalyptique de la situation de la Syrie aujourd'hui et aussi une évaluation de la tâche qui va consister à tenter de reconstruire ce malheureux pays.
Oui, alors commençons effectivement par cet état des lieux. Alors, comme le rappelle le journal allemand, le Spiegel, cette guerre n'est pas terminée, même si les perdants sont déjà identifiés. Il s'agit, dit le journal, de tous ceux qui se sont levés contre le régime d'Assad. Mais au bout du compte, écrit le Spiegel, c'est l'ensemble du pays qui a perdu, car le bilan donné par le journal est catastrophique, entre 400 et 500 000 morts, 5,5 millions de Syriens qui ont fui vers des pays limitrophes ou ailleurs, sans parler des 6,5 millions de gens déplacés à l'intérieur du pays. Quant à la situation de la Syrie, eh bien, elle est elle aussi tout simplement catastrophique. Selon le magazine The Nation, un tiers des logements ont été endommagés ou détruits, de même que les deux tiers des établissements médicaux ou des écoles. L'économie, elle, est moribonde. Selon la Banque mondiale, 60% des Syriens vivent aujourd'hui dans un état d'extrême pauvreté, un ratio qui était inférieur à 13% il y a 10 ans. Et la facture de la reconstruction, alors Karim et Émile Bitar le signalaient tout à l'heure, est estimée au bas mot à plus de 250 milliards de dollars.
Alors qui va payer ?
Eh ben, d'un
enfin,
côté,
qui peut payer ?
D'un côté, il y a les pays nombreux qui veulent profiter de la future manne de la reconstruction. Et puis de l'autre, beaucoup plus rare, ces pays qui sont prêts à débourser de l'argent pour la Syrie. Mais comme le résume le Spiegel, le montant est si élevé que ni le régime syrien, ni ses alliés ne sont disposés à s'en acquitter. La Russie aimerait que l'Occident participe, mais l'Occident veut qu'Assad se retire d'abord du pouvoir. L'argent est le dernier atout dans la manche de l'Occident, écrit le Spiegel. À condition, bien sûr, que l'Europe ou les États-Unis soient effectivement prêts à signer des chèques pour la Syrie. Or, pour le moment, rappelle The Nation, le gouvernement syrien reste l'objet de sanctions de l'Occident. Certes, la Syrie reçoit bien une aide humanitaire, et d'ailleurs, les gouvernements occidentaux sont les premiers donateurs, mais cette aide exclut l'effort de reconstruction. Or, sans l'argent de l'Occident, ainsi The Nation, cette dernière sera plus lente et insuffisante. Alors, certains pays ont bien promis leur aide, comme la Chine, qui a annoncé un financement de 23 milliards de dollars au mois de juillet. Mais ce plan ne concerne pas uniquement la Syrie, mais tous les États arabes. Et surtout, ainsi The Nation, comparé à l'ampleur des besoins, ça reste une goutte d'eau.
Alors, est-ce que les pays occidentaux, qui sont, encore une fois, et Karim Bitar le rappelait, très marginalisés dans cette affaire, et d'abord les Européens, est-ce que ce serait une façon de négocier une aide éventuellement?
C'est ce que souhaiteraient certains, et parmi eux il y a Kenneth Roth, vous savez, le président de l'organisation de Human Rights Watch, qu'on a reçu d'ailleurs ici, auteur d'une tribune dans le quotidien britannique The Independent. Il écrit: avant que l'on dépense 250 milliards de dollars pour reconstruire la Syrie, on devrait obliger Poutine à mettre fin à ses tueries et ses destructions. Alors Kenneth Roth en est convaincu, la Russie de Vladimir Poutine est affaiblie sur le plan économique et elle n'a pas les moyens d'apporter son aide à la Russie. Et c'est vrai, cette fois-ci, c'est le journal russe Nevasimaya Gazeta qui l'explique. Si la Russie estime que la guerre touche à sa fin, Moscou reste persuadé que seules les destructions font aujourd'hui obstacle au retour des réfugiés. C'est pour cette raison que Vladimir Poutine propose à l'Europe de financer la reconstruction de la Syrie pour précisément permettre le retour des réfugiés. Mais Kenneth Roth, lui, se méfie de ce type de marchandage et il écrit: tant que Poutine n'aura pas convaincu le gouvernement syrien de démanteler sa machine de répression et de mort et de livrer ses auteurs à la justice, ce n'est pas la perfusion d'une aide à la reconstruction qui persuadera les réfugiés de rentrer en Syrie.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
J'ai demandé à Rob Mallet précisément, et c'est intéressant parce que je rappelle qu'il a fait partie du Conseil de sécurité américain du temps du président Obama, dont la politique vis-à-vis de la Syrie, pour le moins que l'on puisse dire, a été hésitante. Je lui ai demandé si, de son point de vue, l'enjeu de la reconstruction pouvait être un levier occidental sur Vladimir Poutine. Sa réponse.
Écoutez, c'est un levier, mais j'ai toujours estimé que c'est un levier qu'on peut exagérer. C'est-à-dire que c'est important pour le président Poutine et pour la Russie que ce ne soit pas eux qui soient obligés de reconstruire le pays. Ils n'ont pas les moyens économiques ou financiers. Donc ils aimeraient beaucoup que l'Europe en particulier s'y mette. Mais c'est pas parce que l'Europe refusera de contribuer à reconstruire le pays que Moscou va accepter des concessions sur l'avenir de la Syrie qu'ils n'ont pas accepté lorsqu'ils ont fait face à des défis militaires plus importants encore. Enfin, lorsqu'on pense à ce qui s'est passé en 2014-2015, le régime syrien et ses alliés russes faisaient face à des défis et à des problèmes militaires sur le terrain. Ils ont réussi à les surmonter sans faire de concessions politiques. Je les vois mal faire aujourd'hui de grandes concessions politiques pour obtenir la reconstruction européenne. Cela dit, ils peuvent essayer de faire d'autres gestes sur la réforme de la Constitution et, peut-être encore de façon plus cynique encore, ils l'ont fait déjà, utiliser la possibilité d'une vague de réfugiés syriens allant vers l'Europe, un peu comme un moyen de, comme un moyen de chantage, ce qui veut dire si vous n'arrivez pas à reconstruire le pays, eh bien, les réfugiés syriens ne pourront pas rentrer en Syrie, et qui sait où ils vont se retrouver, parce que ni le Liban, ni la Jordanie, ni peut-être la Turquie ne voudra les contenir, les héberger longtemps encore. Donc, c'est un peu un moyen de pression que la Russie essaie d'utiliser contre l'Occident. À ce jeu, à mon sens, ni les uns ni les autres ne vont gagner. Je ne crois pas que les Occidentaux vont accepter de reconstruire un pays tant qu'il n'y a pas un minimum de réformes politiques. Mais je ne pense pas non plus que la Russie et ses alliés syriens vont accepter des concessions ou un compromis ou une transition politique significative en échange de ressources économiques. Donc, aucun ne réussira réellement à obtenir les résultats sur lesquels il compte. Et malheureusement, ceux qui paieront le prix, encore une fois, ce seront les civils syriens.
François Burga, la situation des civils syriens partout dans le pays est évidemment épouvantable. On a vu que la France, de façon assez discrète, mais ça a été néanmoins un tournant, a accepté de livrer de l'aide humanitaire dans la Ghouta, donc dans la zone que les troupes de Bachar ont reconquise il y a quelques semaines. Donc de l'aide humanitaire qui passe par... Les services, si j'ose dire, de Damas,
du régime,
jusqu'à quel point est-ce que la France, l'Europe, a véritablement un rôle à jouer après tant de pusillanimité dans cette longue guerre ?
Vous avez tout dit dans le dernier membre de votre question. C'est-à-dire que nous avons pris un tournant dans ce conflit, je l'ai déjà dit, en août 2014. En août 2014, nous donnons la priorité à ce qu'on peut appeler les conséquences de la violence sur ce que l'on devrait identifier comme les causes, la pérennité donnée par une ingérence étrangère à un régime d'une grande bestialité de se reproduire. Alors, on peut, à l'intérieur de ça, mais on va tomber dans ces limites du « en même temps ». On ne peut pas faire deux choses totalement contradictoires. On ne peut pas avoir focalisé tous nos moyens sur la seule menace djihadiste sans contribuer à faire émerger une offre politique médiane dans le paysage syrien. On peut bien sûr distribuer des rouleaux de tricot stérile, vous savez, des pansements. C'est un petit peu, ça nous éclaire.
Enfin, on fait mieux que ça quand même. Il y a de l'aide alimentaire, il y a de l'aide médicale. On ne peut pas non plus réduire ça à du tricot stérile.
Oui, on peut, bien sûr. Non, mais on peut, bien sûr, et loin de moi l'idée de dénigrer tout effort qui serait fait demain en termes humanitaires dans la zone d'Idlib. Mais disons que ça ne sera que de la cosmétique par rapport à l'attitude que nous avons eue, comme c'est de la cosmétique au Yémen, quand nous convoquons une conférence humanitaire avec notre co-belligérant saoudien à Paris, que nous continuons à alimenter en armement et en logistique aérienne. Donc, sans faire de mauvais efforts, vous constatez que les Européens sont actuellement dans une posture qui est très bien résumée quand on rappelle la ligne rouge des armes chimiques. Hein. Vous pouvez assassiner votre population avec des barils de 800 kilos de TNT lâchés à basse altitude sur des zones civiles, mais si vous y mettez un produit dangereux pour la santé à l'intérieur, là nous intervenons. Eh bien, je pense que ça c'est un petit peu l'argument humanitaire, c'est un petit peu la feuille de vigne qui tente et qui n'y parvient pas complètement à masquer l'incapacité que nous avons eue, dans les termes que vous avez vous-même prononcés, à jouer un rôle digne de notre histoire au cours de ce long conflit.
C'est en tout cas ce qu'a répété l'ambassadrice américaine à l'ONU, ce qu'a aussi réaffirmé Paris. Autrement dit, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui même, il est quoi, 11h40 heure française, il y a 3 millions de gens qui ne savent toujours pas s'ils vont recevoir un déluge de feu sur la tête dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et ce qui a été dit au Conseil de sécurité et ce qui a été dit aussi notamment par la diplomatie française, c'est qu'en gros, oui, s'il y a un nouveau emploi d'armes chimiques de la part du régime syrien, alors là, attention, on va faire quelque chose. Mais voilà, voilà. Karim Bitar, cela veut dire en gros que tout le monde s'attend en fait à ce qu'il y ait une offensive militaire déclenchée par l'aviation russe pour appuyer les troupes de Bachar al-Assad qui vont, entre guillemets, nettoyer la zone d'Idlib.
Il est à craindre en effet que l'état d'esprit en Occident soit revenu à celui qui prévalait avant les révolutions arabes, c'est-à-dire que la démocratie et les droits de l'homme ne sont plus des priorités. Et on a évoqué la question des réfugiés. Je crois que ça a été un tournant dans la guerre en Syrie, l'arrivée des réfugiés en Syrie, en Europe. C'est à ce moment-là que les opinions publiques ont commencé à changer, où on a commencé à se dire finalement l'autoritarisme c'est peut-être un moindre mal, et où Assad et le camp nationaliste autoritaire à l'échelle planétaire ont gagné la guerre des narratifs.
Donc, ce à quoi il faut ajouter, et là c'est quand même une dimension qu'on ne peut pas nier, le terrorisme qui a ensanglanté notre pays d'abord, la France, la Belgique et d'autres pays européens. On ne peut quand même pas non plus négliger cette priorité-là de la part
absolument,
de nos propres démocraties.
Ce terrorisme est aussi en grande partie la résultante de décennies d'autoritarisme et de mauvaise gouvernance dans le monde arabe. Nous sommes en présence de deux phénomènes qui se nourrissent mutuellement et nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les neutraliser simultanément. L'autoritarisme et l'islamisme radical sont deux phénomènes qui s'entretiennent mutuellement. Et nous sommes revenus aujourd'hui malheureusement à l'idée que l'autoritarisme était un rempart, était un moindre mal, et nous en paierons le prix dans quelques années.
Dorothée Schmitt, cette forme à la fois de retrait de la part des Occidentaux, cette forme de cynisme aussi, mais la prise en compte de priorités qui, vu, encore une fois, de nos capitales, des priorités qui paraissent absolument légitimes, tout cela veut dire quand même que ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, voilà des lustres que ce système, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fonctionne pas.
Oui, alors en même temps, l'ONU a été donc très présente sur le dossier syrien, même si elle n'arrive à rien. Vous l'avez rappelé, Stéphane de Mistura s'active en permanence. Les solutions qu'il propose sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que là, c'est permettre aux combattants de partir, évacuer les civils, enfin proposer un ultimatum aux combattants et évacuer les civils. C'est toujours les mêmes solutions. Il est dans son rôle, c'est un diplomate. Il ne peut pas donner de solution militaire, il est censé ne pas prendre parti, donc il est considéré comme étant invariablement du côté du plus fort. Donc là, c'est-à-dire qu'il est sans cesse accusé de collusion avec les Russes, en réalité, depuis 2 ans.
Accusé par qui ?
Accusé par les opposants au régime de Bachar al-Assad et par tous ceux qui considèrent que la solution politique viable à long terme, dans l'esprit de ce que vient de dire Karim Emil Bitar, ça sera une solution démocratique, que de toute façon, Bachar doit partir.
Mais c'était d'ailleurs la position de la diplomatie française.
Alors pour revenir
du temps de Laurent Fabius.
Oui, pour revenir un moment sur
un peu décalé par rapport au rapport de force du moment.
Pour revenir un moment sur la politique française en Syrie, je crois qu'effectivement elle est complètement illisible depuis le début du conflit pratiquement. C'est à la fois une question de sentiment, de nécessité d'avoir quelque chose à dire sur le dossier syrien parce qu'on considère qu'on a une responsabilité historique, ce que rappelait François Burga. Donc la France veut avoir quelque chose à dire sur la Syrie. Elle s'est retrouvée prise à son propre piège de vouloir emboîter le pas au printemps arabe très rapidement alors que la situation sur le terrain n'était pas du tout favorable aux rebelles syriens. Et aujourd'hui, on comprend bien que Emmanuel Macron et comme d'autres pays se dit « bon, finalement, Bachar a gagné sur le terrain, comment est-ce qu'on va faire pour s'en accommoder d'une façon ou d'une autre ?» Et donc le discours devient uniquement un discours humanitaire parce que c'est là qu'on considère que, de façon un peu neutre, en attendant que la situation se décante politiquement, on peut avoir une contribution à partir du moment où on a rempli militairement nos obligations qui étaient de lutter contre l'organisation État islamique, contre Daesh. Donc on a du point de vue, je dirais, de la du spectacle, on a plus ou moins fait le job parce que on est venu à bout de Daesh d'un côté et qu'aujourd'hui on défend l'humanitaire. Le problème, c'est que ça signifie qu'on a laissé le rapport de force des puissances s'inverser totalement dans la région, avec effectivement une présence russe à long terme qui est en train de s'installer. On a finalement acquiescé à un retrait américain aussi, parce que malgré les déclarations d'Emmanuel Macron qu'il a convaincu Trump de rester en Syrie, on sait que les Américains en réalité ont plutôt envie de se retirer. On n'aura rien à dire sur la solution politique en Syrie, et donc on est en train de courir en permanence derrière les principaux acteurs, parce que on n'a pas l'intention d'intervenir militairement, et c'est là que l'histoire des armes chimiques est très intéressante. C'est vrai que beaucoup d'observateurs considèrent que de dire que s'il y a un usage des armes chimiques, on va intervenir, signifie en réalité donner un blanc-seing à l'armée de Bachar al-Assad pour mener l'action avec des armes conventionnelles.
François Burga, retournons à Idlib. Sur le terrain, d'après vos informations, comment peut réagir la population et comment les différents groupes rebelles et ou djihadistes, dont certains sont militairement très, très aguerris, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Attendre simplement ?
Pour répondre, il faut rappeler qu'Idlib, c'est pas une ville. Hein.
Oui, c'est une région.
Idlib, c'est une ville qui avait 150 000 habitants avant. C'est une région. C'est une région qui part d'Alep. À la frontière d'Alep commence le gouvernorat d'Idlib, même si ses frontières administratives sont pas respectées. Et ensuite, il descend le long de la route qui va vers Hama, en englobant toute une série de petites... Donc je pense pas qu'il va y avoir un rouleau compresseur qui va, avec les mêmes capacités, s'en prendre à toute la superficie du gouvernorat. Je pense que nous allons avoir une stratégie militaire qui va consister à réduire l'emprise territoriale de l'opposition, mais en faisant des prises, hein, Ma'arek Nourman, Khan Asal, il y a plein de petites villes qui peuvent faire l'objet. Alors Idlib, évidemment, c'est le noyau dur. Idlib, c'est un lieu où les combattants les plus déterminés sont retranchés de manière telle qu'ils échappent en partie ou en partie au moins à l'arme aérienne, sauf tir direct. Et on sait très bien, on a les preuves par l'action à Raqqa, à Mossoul, de ce que Poutine a peut-être pas envie de restituer Idlib dans l'état où nous, parce que nous y étions associés, y compris les Français, nous avons restitué Raqqa ou Mossoul, c'est-à-dire à l'état de ruine totale. Alors, je pense qu'il y a toute une gamme de modalités stratégiques de cette offensive militaire. Raphaël Pitti rappelait hier sur une station voisine qu'ils aiment beaucoup affamer, c'est-à-dire que des villes sont encerclées, puis affamées, puis on détruit par l'armée aérienne l'infrastructure sanitaire et médicale et alimentaire pour forcer la population à se détacher de la solidarité marquée avec les rebelles. Donc je pense que c'est à cela que nous risquons d'assister. La réaction de la population, on le sait, ils vivent sous terre en grande partie, tout le monde a des abris, et puis tout le monde vit cette angoisse extrême de la proximité d'un combat qui va perpétrer ce que l'on sait qui a été perpétré dans tout le reste du territoire.
Karim Émile Bitar, vous arrivez de Beyrouth, je crois que vous êtes là depuis hier soir à Paris. Vu de Beyrouth, comment qui est à quoi, à 60 km? On oublie toujours les distances dans cette partie du monde, on s'imagine que tout ça est très très loin les uns des autres, pas du tout. Il y a quoi, Damas, Beyrouth, c'est 60 km?
C'est moins d'une heure, une heure et demie, oui.
Comment est perçu ce nouveau chapitre, si j'ose dire?
Il y a une sorte de micro-société au Liban qui fait comme si de rien n'était, mais le Liban profond, dans sa conscience collective, est quand même durement touché, déjà par le poids des réfugiés, qui est important. C'est le pays au monde qui, au prorata, accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens, mais aussi parce que cela rappelle de souvenirs douloureux de la guerre libanaise, qui était aussi, à bien des égards, une guerre par procuration, des guerres des autres, qui s'est transformée aussi en paix des autres, parce que le Liban n'est sorti de sa guerre qu'avec les accords de Taif, qui était une sorte de condominium à l'époque syro-saoudien, qui n'a volé en en éclat qu'avec l'assassinat de Rafik Hariri en 2005. Donc, est-ce que le destin de la Syrie serait de subir également dans son après-guerre une sorte de continuité de cet affrontement entre puissances, de nouveaux condominiums et une dégradation de la situation économique, car toute reconstruction ne peut être qu'illusoire dans un contexte où il n'y a pas de pacification véritable entre, de modus vivendi entre les puissances. Il pourra y avoir des bénéficiaires de cette reconstruction, mais le peuple syrien pourrait continuer de souffrir pendant encore des décennies. On a véritablement affaiblit ce pays dans ses structures. C'est un pays qui avait quand même un taux d'alphabétisation assez élevé, qui avait une société urbaine à Alep et à Damas qui était quelque peu sortie de la misère. C'est pour cela que Damas et Alep avaient tardé à rejoindre la révolution syrienne, parce que Assad avait réussi à un moment donné à associer un peu la bourgeoisie d'affaires, les sunnites, les minorités religieuses à cette caste
affairiste. Dont les chrétiens,
à cette caste affairiste. Donc Robert Mallet, qui était là tout à l'heure, avait écrit un excellent article au début des révolutions arabes, disant « Le problème, c'est qu'on a plusieurs révolutions qui se superposent, plusieurs dimensions. La dimension peuple contre peuple, la dimension régime contre régime et la dimension peuple contre régime. Et si la révolution syrienne est la plus complexe de toutes les révolutions arabes, c'est parce que ces trois dimensions sont simultanément présentes de façon très forte. Il y a une authentique révolution légitime d'un peuple contre un régime autoritaire, mais il y a aussi une population qui est divisée. Assad a continué de maintenir un soutien pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'une partie de sa population. Et la troisième dimension la plus grave, c'est celle de l'affrontement entre régimes de la région, notamment irano-saoudien. Les Turcs portent, M. Erdogan porte une lourde part de responsabilité dans le conflit syrien. On a rappelé qu'une frontière de 900 km a été laissée à l'état de passoire pendant 2-3 ans. Et c'est ironique aujourd'hui de voir M. Erdogan venir se poser en protecteur des civils d'Idlib.
Et on voit d'ailleurs, une dépêche de l'AFP vient de tomber, que l'autre préoccupation turque, et Dorothy Schmidt en parlait tout à l'heure, c'est le problème au nord-est de la Syrie, donc, avec les forces kurdes syriennes. Et donc, ce matin, 18 membres du, enfin 18 soldats du régime de Damas et des forces de sécurité kurdes se sont affrontés, échange de tirs, donc 11 morts côté Assad, 7 morts côté kurdes. Donc il y a, Dorothée, cet autre front qui reste actif, donc pas seulement la région d'Idlib, comme le rappelait François Burgat, mais aussi la région du Nord-Est. Donc quand on dit que, en gros, la guerre en Syrie s'est terminée, non.
Alors, pour les Turcs, si on se place à l'intérieur du territoire turc aujourd'hui, les deux priorités, c'est effectivement la question kurde, avec les combats contre le PKK qui se poursuivent sur le territoire turc même, mais qui aussi se sont étendus à la Syrie. Et puis, la question des réfugiés. Je voudrais quand même revenir une minute sur cette question, parce que, en réalité, d'une certaine façon, la solution humanitaire, elle est quand même entre les mains de la Turquie, qui peut autoriser le passage, qui peut autoriser des corridors humanitaires entre Azaz et Afrin vers des zones qu'elle contrôle. Le problème, c'est
et
que la Turquie...
Et qu'il y a toujours, vous le rappeliez tout à l'heure, plus de 3 millions de Syriens
chez
réfugiés
elle,
sur le territoire turc.
Une Turquie qui est affaiblie économiquement et une opposition turque aujourd'hui, les kémalistes, qui appellent en réalité Tayyip Erdogan à s'entendre avec Bachar el-Assad, qui appelle Erdogan à changer de position finalement sur le conflit syrien, parce que la présence de davantage de réfugiés syriens en Turquie est intenable. Donc pour qu'Erdogan se débloque, je dirais, sur l'aspect humanitaire, ce sur quoi il aurait vraiment un coup à jouer, il faudra lui trouver des compensations. Quelle compensation est-ce qu'Erdogan peut obtenir sur le dossier syrien? On peut évidemment imaginer une négociation sur la question kurde. Il voudra des assurances sur le fait que jamais les Kurdes ne parviennent à une forme d'autonomie en Syrie.
Donc des assurances qui viendraient de quel partenaire?
Qui viendraient des Russes et qui viendraient de Bachar, sur pression russe ou par négociation directe.
Parce que
Bachar.
Les Kurdes syriens sont en principe soutenus par les Américains.
Alors, enfin, les Kurdes syriens étaient soutenus par les Américains dans l'offensive anti-Daesh à l'Est. Maintenant que celle-ci est achevée...
Et les Français, d'ailleurs, à
l'époque. Les Kurdes syriens, qui sont considérés par Erdogan comme une extension du terrorisme du PKK, qui ont été extrêmement actifs et qui ont été au cœur de la reprise de Raqqa avec les forces démocratiques syriennes...
Ah, ce sont ceux qui se sont le mieux battus contre Daesh.
Aujourd'hui, sont à la recherche cherchent de nouveaux sponsors parce qu'ils ont bien compris qu'en réalité, les Américains n'étaient pas prêts à les soutenir contre de nouvelles offensives militaires turques. Et aujourd'hui, ils sont en train de se rapprocher du régime de Bachar al-Assad. Et on sait qu'on a déjà des combattants kurdes qui ont rejoint les forces loyalistes à Idlib.
Voilà, évidemment, encore une fois, la démonstration de l'extraordinaire complexité de la situation dans une région, encore une fois, dont on a toujours tendance à surévaluer la dimension. Tout cela se passe dans des territoires qui sont relativement étroits et avec des populations qui, à chaque fois, sont prisonnières de ces mouvements de ressac et de ces mouvements d'alliance. Et ce qui est sûr, encore une fois, Karim Bitar, c'est que le système international tel que on l'a vu fonctionner, en tout cas au siècle dernier, ce système est complètement en miettes.
C'est un échec flagrant de la gouvernance globale, de l'interventionnisme humanitaire. Il faut rappeler qu'à Idlib, il n'y a pas uniquement les habitants du gouvernorat d'Idlib, il y a aussi énormément de réfugiés qui ont quitté d'autres régions de la Syrie pour fuir le régime syrien. Donc c'est un peu aujourd'hui le village d'Astérix en Syrie, ce qui reste d'Idlib.
Et beaucoup
craignent de subir une véritable épuration. Donc la bataille, si elle doit avoir lieu, pourrait avoir des conséquences humanitaires absolument catastrophiques sous le regard d'une communauté internationale qui est plus impuissante que jamais, dépassé par les événements, et cela est assumé par le président des États-Unis qui considère qu'après tout, ces organisations internationales sont futiles et seule la politique de puissance doit compter. C'est le point commun avec M. Poutine.
J'ai demandé, en guise de conclusion provisoire et hélas extrêmement déprimante, j'ai demandé à Rob Mallet jusqu'à quel point le système international a failli, encore une fois.
C'est vrai que le système international a failli, puisqu'il n'a pas pu empêcher les graves violations de droits de l'homme, violations des crimes de guerre qui se sont produits en Syrie. Donc le système international, le rôle des Nations Unies, la capacité de régler les conflits de manière non militaire, tout ça a montré non seulement ses limites, mais sa faillite. Il va falloir le revoir en bloc. C'est un peu ce travail qu'on essaie de réfléchir à International Crisis Group. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face. Et c'est pas la première fois, comme je le dis, mais la Syrie, c'est quand même un exemple assez frappant. Mais on l'a vécu un peu partout. Hein. Il faut remonter à pas mal de temps pour voir le système international, les Nations Unies, le Conseil de sécurité réussir réellement à résoudre un conflit. Donc il y a cassure de ce système, il y a une crise de ce système, et je crois qu'il va falloir le réinventer.
Voilà, réinventer le système, lourde tâche, d'autant qu'on ne voit pas qui véritablement a envie d'en prendre la charge. Il faut déjà réinventer l'Europe, c'est ce que le président Macron s'efforce de faire en tentant difficilement d'ailleurs de convaincre ses partenaires européens quant au système international. Là, c'est une autre affaire. Merci en tout cas à vous tous d'avoir contribué à éclairer les enjeux qui, encore une fois, vont se dénouer ou non de façon plus ou moins sanglante dans la région d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. Merci à vous, Dorothée Schmidt. Vous dirigez le programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI. Vous avez publié La Turquie en 100 questions chez Taillandier. C'était l'an dernier et vous avez contribuer de façon fort intéressante
diriger
à ce rapport Ramsès 2019, tout frais, je l'ai dans les mains, les chocs du futur, donc le rapport annuel de l'IFRI. Merci à Karim-Émile Bitar. Vos articles et vos interviews, on peut les trouver sur le site de l'IRIS, et vous avez co-dirigé un ouvrage sur le cèdre et le chêne de Gaulle et le Liban. C'était en 2015. Merci à Rob Mallet. Je rappelle le très intéressant rapport de Crisis Group sur la situation à Idlib. Merci à vous, François Burga. Vous avez dirigé avec Laurent Bonnefoy un dossier avec ou sans les frères dans Critique internationale aux presses de Sciences Po au mois de mars de cette année. Et je rappelle aussi votre dernier ouvrage, Comprendre l'islam politique, la découverte en 2016. Merci à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique, Meryl Moneghetti à la préparation de cette émission, comme chaque semaine. Merci à Eric Scholl, bien sûr. Et dans un instant, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.